صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله تعالى nous dit dans le Coran في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah, il lui fera une ouverture et il le rétribuera, lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Traduction rapprochée du verset. Barakallahu fiikum. Méditez sur ce verset. Méditez. Barakallahu fiikum. Méditez sur ce verset. Si on craint Allah, c'est la base de tout. La crainte d'Allah, at-taqwa, c'est la base de tout. On va commencer notre cours sur le comportement. Alors, non. Donc, dans notre matière, le comportement, comme vous le savez, on étudie un livre, un ouvrage de Cheikh Al-Uthaymin qui se nomme Makarim al-Akhlaq, les nobles caractères, les bons comportements. On avait expliqué que ce livre, on le trouve également dans le livre de la science, Kitabul Ilm. On le trouve dedans. Naham. Donc on avait donné la page. Vous avez donné la page pour ceux qui ont le livre. Page 315, ça commence. Hein. Donc plutôt que de prendre le livre qui se vend tout seul, hein, on peut trouver tout seul, indépendant, on est parti dans le livre de la science, et on a commencé, c'est vers la fin, mais on a commencé par là. Taïb. Et ensuite, quand on aura terminé, comme le deuxième livre qu'on va étudier à l'Institut dans la matière du comportement, c'est le livre de la science, Kitabul Ilm. Alors, à ce moment-là, on reviendra au début de notre ouvrage. Donc, on avait commencé cet ouvrage très, très, très bénéfique. Parce que juste ce petit ouvrage, juste cet ouvrage, hein, un étudiant débutant, il étudie cet ouvrage correctement, bien entendu, hein. Il le met en pratique, ça rentre dans son cœur. Wallahi, même si c'est un débutant, il sera mieux que énormément de gens, même si ce sont des anciens, même si ce sont des étudiants, des diplômés, qui tu veux. C'est pour ça qu'on a commencé par celui-là. Parce que dedans, il y a tout le comportement. Il faut juste comprendre, assimiler et pratiquer. Celui qui a compris ça et le met en pratique, il sera mieux que beaucoup de gens qui ne font que prétendre ceci, prétendre cela, mais sur le terrain, il n'y a rien du tout. Comme vous le savez, nous à l'Institut, on n'est pas là pour que prétendre, faire du cinéma et du bling-bling, comme on dit, mais on est là pour pratiquer. Parce que le but de du talib ul-ilm, comme le disent les savants. Le but du talib ul-ilm, c'est quoi? Pourquoi tu étudies? Les savants disent, tu étudies, tu apprends, c'est pour pratiquer. Donc ce premier ouvrage, c'est un trésor qu'on vous donne dès le début de votre enseignement, un trésor. Comme on dit, salut à bon entendeur. Ça veut dire, ou alors on va utiliser encore mieux, plutôt que d'utiliser une expression, ce qui n'est pas interdit si c'est une vérité, mais encore mieux d'utiliser une parole des savants, où les savants disent, l'aura compris celui qui l'aura compris, et l'ignorera celui qui l'ignorera. Plutôt le sera celui qui le sera, et l'ignorera celui qui l'ignorera. Arafa man arafa, wa jahila man jahila. Donc, dans un premier temps, on avait commencé notre ouvrage, on avait parlé de la définition du comportement, où se situait le comportement intérieur, extérieur. Ensuite, on a parlé des formes d'acquisition du comportement. Faut pas croire que le comportement, c'est comme ça. Il y a plusieurs formes d'acquisition du comportement. Ça, vous pouvez l'apprendre, prendre connaissance de cela dans les cours précédents. On avait commencé également à expliquer, on a expliqué que le premier comportement et le comportement le plus important, c'était le comportement et c'est le comportement avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen nous expliquait, là où énormément de gens pensent que le comportement se résume au comportement avec les gens, ceci est une erreur, car on a tendance à négliger le comportement. La forme de comportement la plus importante qui est le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. À ce propos, le comportement avec Allah fait partie du comportement avec Allah, le tawhid. Si quelqu'un n'apprend pas le tawhid et ne le met pas en pratique, automatiquement il aura un manque dans le. Plutôt si quelqu'un n'apprend pas le comportement et ne le met pas en pratique, il aura forcément un manque dans le tawhid, puisqu'il ne donnera pas le droit d'Allah dans le comportement. Son droit à Allah Ta'ala dans le comportement. Donc on avait vu que également, c'est un petit récapitulatif qu'on fait. On avait vu également que l'acquisition du comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, elle passe par trois choses. On avait vu que l'acquisition du comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, elle passe par trois choses. On avait vu la première chose, c'était de recevoir les informations d'Allah, révélées par Allah, en leur donnant son plein assentiment. On avait expliqué hein, ce qu'Allah Ta'ala il a révélé, on n'a pas de doute dessus, on y croit, on est véridique. La deuxième chose pour concrétiser le comportement avec Allah, on avait dit recevoir ses lois en étant disposé à les exécuter, à les mettre en application, c'est-à-dire que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas de retenue, on n'est pas indécis, on a des doutes. Comme les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, nous avons entendu, nous avons obéi. Troisièmement, pour concrétiser le comportement avec Allah, le bon comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, recevoir ce qu'il a décrété, recevoir ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété, avec un cœur patient et satisfait. En résumé, c'est-à-dire que la prédestinée, ce qu'Allah Ta'ala, il t'a prédestiné, il t'a destiné, tu dois l'accepter, ne pas te fâcher, ne pas te mettre en colère. Tu dois patienter et ça, c'est le moindre. Et le niveau le plus haut, c'est d'être satisfait. C'est d'être satisfait. Voilà. On avait expliqué, cette notion de satisfaction, on l'a expliqué. On avait expliqué que il y a 2 degrés dans la patience. Il y a la patience où tu as mal à l'intérieur, T'as du mal, mais tu patientes quand même. Ça, c'est le minimum. Pour qu'on dise que t'as patienté, c'est le minimum. Et ensuite, il y a le plus haut degré. Ça, c'est vraiment ceux qui ont atteint le haut degré de patience. C'est celui que même dans les épreuves, etc., tout ce qu'Allah a décrété, il en arrive à dire Alhamdulillah, il est satisfait, il est content. Tellement il a la foi, il accepte. Non, mais ça c'est le plus haut degré. Hein. Entre les deux, le degré qui est obligatoire, c'est le premier, celui de patienter. Non. Alors ensuite, on était arrivé au bon comportement. Là, on en est arrivé ici. On s'était arrêté là. Après avoir expliqué, en résumé, le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Al-Uthaymeen, maintenant, il va nous parler du bon comportement avec qui? Avec les autres, les créatures. Alors, on vous avait donné une faïda dans le cours précédent à faire très 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 attention. On avait dit que Cheikh Al-Uthaymeen, dans un de ses ouvrages, l'explication de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, il avait dit qu'il y avait trois choses concernant l'injustice. L'injustice envers Allah, l'injustice envers soi-même et l'injustice envers les autres. On avait dit que Cheikh Al-Uthaymeen, il disait, attention, l'injustice envers Allah, Allah il te pardonne, l'injustice envers toi-même, Allah il te pardonne, mais l'injustice envers les autres, il y a des conditions pour être pardonné. Parmi les conditions, d'aller ou demander pardon ou de rendre ce qu'on doit à la personne, etc., etc. Taïb. Donc je cite Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Quant au bon comportement avec les gens, certains le résument dans la phrase suivante attribuée notamment à Al-Hassan Al-Basri, qui est un des savants des tabi'in. C'est s'abstenir de faire du mal, être généreux et avoir un visage souriant. Définition du comportement. Chez un de nos grands savants parmi les tabi'in. Les tabi'in, donc, qui sont-ils? Les tabi'in, ce sont les élèves des compagnons. Ce sont ceux, parce que tabi'i, tabi'r, ça veut dire suivre, les suiveurs. Ce sont ceux qui sont venus la génération juste après les compagnons du prophète. On les appelle les tabi'in. D'accord? Donc, on a un de nos savants parmi les tabi'in, Hassan al-Basri, qui est très, très, très connu et il était très fort. Qui a dit, comme définition du comportement, c'est-à-dire pour définir le comportement en une phrase. Écoutez bien, il a dit, c'est s'abstenir de faire du mal aux autres. Hein. Être généreux, ça veut dire faire le bien, donner, on va détailler tout ça à la Kulihala. Et avoir un visage souriant, subhanallah. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, on distingue trois vertus auxquelles appelle cette maxime. S'abstenir de faire du mal. S'abstenir de faire du mal. Être généreux et avoir un visage souriant. Alors, l'homme doit s'abstenir de faire du mal à quelqu'un. Que ce mal touche les biens de celui-ci, sa personne ou son honneur. Allahu Akbar. Celui qui ne s'abstient pas de faire du mal à autrui n'est pas doté d'un bon caractère, comportement. C'est quelqu'un qui a un laid comportement, un caractère laid, en les dit, hein, dans la plus grande assemblée qui a réuni le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les membres de sa communauté lors du pèlerinage d'adieu. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelque temps avant de mourir, il a fait ce qu'on appelle khutbat al-hajja, c'est un pèlerinage d'adieu. Il a fait un sermon d'adieu, en fait. Il a dit, Allah a rendu votre sang, vos biens et votre honneur sacré, c'est-à-dire entre vous les musulmans. Il ne faut pas toucher à ça. De même qu'il a fait de ce jour un jour sacré, de ce mois un mois sacré, de cette terre une terre sacrée. Yarni pour comparer le sacré au sacré. Un homme qui porte atteinte à l'intégrité ou aux droits des gens par la trahison, les coups ou un préjudice quelconque, ou porte atteinte à leur honneur par les insultes ou la médisance, est un homme qui n'est pas doté d'une noblesse de caractère dans sa relation avec les gens, car il ne s'abstient pas de leur faire du mal. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Qu'Allah nous vienne en aide. Il faut savoir que plus la victime a des droits sur son agresseur, plus le péché de l'agression est grave. En effet, il est plus grave de nuire à ses parents que de nuire à d'autres gens. Il est plus grave de nuire à ses proches que de nuire à d'autres gens. Il est plus grave de nuire à ses voisins que de nuire à celui qui habite loin de chez soi. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit que plus la personne aura un droit sur toi, ça peut être un droit familial, un droit yarni, c'est-à-dire plus une personne a un droit sur toi, plus le péché, il est grave, il est plus grave. Taïb. Le prophète, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah qu'il n'y a pas la foi. Je jure par Allah qu'il n'a pas la foi, pardon. Je jure par Allah 3 fois qu'il n'a pas la foi. Mais qui donc lui demanda-t-on? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa malveillance. Muslim rapporte la version suivante. Il n'entrera pas au paradis un homme dont le voisin redoute les méfaits. Le terme bawaqi' signifie les méfaits. Le mal, si vous voulez. Le mal. En ce qui concerne le terme, alors ça c'est en arabe, hein. Badar al-Nada signifie la générosité, ça veut dire faire du bien. Cela signifie que le serviteur doit faire preuve de générosité et de libéralité. Contrairement à ce que pensent certains, la générosité ne se limite pas au don d'argent, mais elle consiste aussi à faire don de sa propre personne et à user de son influence pour rendre service aux autres. Quand nous voyons un homme rendre service aux gens, intervenir pour faire parvenir leurs requêtes à des services qu'ils ne peuvent pas accéder, c'est-à-dire user de ton influence, par exemple, tu uses de ton influence pour aider les autres. Ça, c'est faire le bien. Ou si tu travailles dans une branche, tu aides les autres, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On connaissait à l'époque une dame qui travaillait dans un dispensaire médical. C'était une musulmane. Et elle facilitait beaucoup aux musulmans. Elle facilitait beaucoup aux musulmans. Très gentille, très accueillante. Voilà. Même avec certaines musulmanes, elle était même devenue amie proche. Amie proche. Naam. Et elle utilisait son rang au sein du dispensaire médical pour aider les musulmans qui étaient en difficulté, quelle que soit la difficulté. Quand nous voyons un homme rendre service aux gens, intervenir pour faire parvenir leurs requêtes à des services qu'ils ne peuvent pas accéder, répandre son savoir et faire don de ses biens aux gens, nous pouvons dire qu'il a un noble caractère parce qu'il fait preuve de générosité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en effet, crains Allah où que tu sois. Vous voyez, hein, on revient encore à la crainte. Rappelez-vous au tout début, on vous a cité un verset, Ittaqillah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, il lui fera une ouverture. Donc ici encore, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Ça, c'est toujours. N'oubliez jamais, quand vous faites un péché, une déviance, une mauvaise action, n'importe quoi, faites-le toujours suivre par une bonne action, parce que ça efface. C'est comme ça que tu vas effacer et pas te retrouver avec une montagne, une montagagne, une montagne où tu seras choqué. Les textes témoignent de ça. Il y a des gens, ils vont être insouciants, laxistes. Ils vont se retrouver le jour de la résurrection avec une montagne. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ça, c'était péché. Ça, c'était péché. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Hein? Vous connaissez les mathématiques. Subhanallah. Mais par la grâce d'Allah, cette belle et juste religion, où Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne nous veut que du bien. Il te donne la possibilité de te racheter, c'est-à-dire que instantanément, quand tu as fait une mauvaise action, un mauvais péché, tu te repentis et tu fais des bonnes actions. Tellement tu as la crainte d'Allah et tu veux pas que ça soit marqué. Wallahu alam, je crois qu'il y a même des textes, un hadith qui dit, les anges, quand tu fais un péché, les anges, ils attendent, je ne sais plus si c'est 6 heures ou je ne sais plus combien, ils attendent avant de noter le péché. Si tu vas pas faire taouba, si tu vas faire taouba, tu vas te repentir, ou si tu vas faire des bonnes actions, ils vont pas noter. Wallahu a'lam, à vérifier. Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité, subhanallah, d'un bon comportement. Ambassadeur de l'islam, ambassadeur de l'islam à tous les endroits. Ça peut être chez toi, ça peut être avec tes voisins, au sein de chez toi, ta famille, partout, partout. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice de l'islam. Et la première chose qu'on donne à l'ambassadeur qu'il doit posséder, c'est la parure du bon comportement. Sinon, tu saliras l'islam. Tu saliras l'image de l'islam. Donc, c'est très important. Masha'Allah, barakallahu fik, Cheikh Bilal. Très bien. Donc, Cheikh Bilal, il nous a ramené la source. Wa alaykoum assalam. Barakallahu fik, c'est gentil. Si le musulman commet un péché, l'ange qui se trouve à son côté gauche prend la plume et la suspend pendant 6 heures, attendant qu'il regrette son acte et demande le pardon à Allah. S'il le fait, l'ange jette la plume, mais s'il ne le fait, l'ange n'enregistrera qu'un seul péché, rapporté par Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir. Barakallahu fik, Cheikh Bilal. Très bien. Alors, cela signifie que lorsqu'on subit une injustice ou un mal quelconque, il faut pardonner et agir comme si rien n'était. Donc ça, c'est le summum, c'est le haut niveau. Hein. Ça, c'est le croyant qui a un haut niveau. Il est capable, d'ailleurs, il peut gagner le paradis comme ça, parce il y a un récit qui est raconté, comme quoi il y avait une personne, il lui avait été demandé, parce qu'il y avait une personne qui avait fait un rêve sur cette personne, comme quoi elle le voyait au paradis. Et il ne comprenait pas, mais tu fais quoi de spécial? T'as quoi de spécial? Et cette personne, elle a dit, je ne m'endors pas le soir sans demander pardon pour tous ceux qui m'ont fait quelque chose. Du mal ou injustice. Donc c'est vraiment le haut degré. Il y a des gens comme ça. Hein. Moi, je connais des gens comme ça. C'est incroyable. Hein. On leur a fait du mal. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Cette personne, elle rend toujours par le bien. Elle n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Wallah al-musta'an. Il y a des gens comme ça. Hein. Qui trouvent des excuses, qui disent c'est pas grave. Allahu Akbar. Hein. Même des fois, moi-même, je me posais la question. Hein. Sur une personne, des gens, ils lui ont craché dessus, craché sur sa nourriture, insulté, rabaissée et la personne, jamais elle a rendu par le mal. Jamais elle a rendu par le mal. Voilà des choses que vous pouvez même pas vous imaginer. Il y en a, ils ont commis des meurtres pour ce que cette personne, elle a pardonné, il y en a, ils ont commis des meurtres pour ça. Subhanallah. Allah a d'ailleurs fait l'éloge de ceux qui font grâce aux gens. Il a dit au sujet des gens du paradis qu'ils refrènent leur colère et qui refrènent leur colère et qui font grâce aux gens, car Allah aime ceux qui agissent parfaitement. Il a également dit, Allah Ta'ala, fais grâce, faire grâce, c'est être plus proche de la crainte pieuse. Al-afwa, aqrab li taqwa. Pardonner, c'est plus proche de la piété, en fait. Le pardon, il est plus proche de la piété. Naham. Qu'il fasse grâce et qu'il pardonne. Celui qui fait grâce dans un esprit de réforme trouvera sa récompense auprès d'Allah. Ça signifie que il y a une grande, grande, grande récompense pour celui qui pardonne. Qui pardonne, qui efface. Donc celui qui veut le paradis, de grandes chances d'aller au paradis, il faut essayer de pratiquer ça. Alors, ce que je voulais vous dire comme faïda également, très importante, c'est vraiment important ce qu'on va dire, tout est important, mais là, retenez bien, c'est que vous savez que la pratique du comportement, vous avez fait un pas vers un institut pour apprendre le comportement, c'est déjà un premier pas, c'est très bien. Mais sachez que vous pouvez acquérir le bon comportement, ça peut être le travail de toute une vie. Toute une vie, ça peut vous mettre 10 ans, 20 ans. Moi-même, je travaille encore dessus pour vous le dire. Je suis encore plus de 20 ans en train de travailler dessus. Tellement le nifs, des fois, c'est très dur. Pour arriver, bien entendu, au haut niveau. Hein. Au haut niveau, c'est pas en une semaine, sauf si Allah Ta'ala, il t'a choisi vraiment. Mais en général, après, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais ça peut mettre toute une vie. Toute une vie. Donc ne croyez pas qu'on a le temps. C'est bon, ça fait une semaine que je fais des cours. Je peux arrêter, j'ai compris. Wallahu a'lam. Des fois, c'est le travail de toute une vie. Subhanallah. Tout homme qui fréquente les gens subira quelques méfaits de leur part. Sa position vis-à-vis de ces méfaits consiste à faire grâce à leurs auteurs et à agir comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un niveau difficile quand même. Mais si on ne s'entraîne pas et si on ne fait pas les efforts, qu'il sache de manière certaine que s'il fait grâce, se montre indulgent et répond au tort qu'il a subi par un bon comportement, l'hostilité qu'on lui témoigne se transformera en amitié. Comme l'a dit Allah ou Ta'ala, le Très-Haut, en effet, dans le Coran, la bonne action efface la mauvaise action. Ne sont pas pareilles. Pardon. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà ton ennemi qui se mue en fervent allié, qui se transforme en allié, en ami. Que désigne ce verset par ce qui est meilleur. Est-ce la mauvaise action ou la bonne action? Méditez, ô vous qui connaissez les subtilités de la langue arabe. Comment la proposition principale a débuté par la particule qui marque la surprise, idha, traduit par et voilà, et qui introduit la promptitude de résultat. Donc là, c'est technique parce que c'est de la grammaire, et bien plus que de la grammaire, et déjà en arabe, c'est technique. Alors en français, n'en parlons pas. On dira que ça ne nous concerne pas, on est débutant. Et voilà ton ennemi qui se mue en fervent allié. Mais est-ce que n'importe qui réussit cette épreuve? La réponse est non, puisqu'Allah a dit juste après, c'est vrai qu'une telle vertu n'est donnée qu'à ceux qui se sont montrés patients, et elle n'est accordée qu'à ceux qui détiennent une faveur immense. Vous avez vu? C'est pas donné à tout le monde. Comme vous pouvez le voir, hein. C'est Allah Ta'ala lui-même qui le dit. C'est pas donné à tout le monde. Ça va demander de la patience, des efforts et du temps. Et même après ça, tu n'es pas sûr parce que c'est Allah, s'il veut, il donne à qui il veut. Mais faut essayer. Faut essayer. Il faut faire partie des endurants. Il faut essayer de faire partie des endurants, pas de ceux qui abandonnent. L'abandon, c'est signe de perdition, sachez-le bien. Retenez bien cette faïda. Wallah, il retenait bien cette faïda. L'abandon, c'est signe de perdition. L'abandon dans la religion, c'est pas signe de. C'est pas comme dans la dounia. Oh, j'ai abandonné le travail. Oh, j'ai abandonné telle personne. Oh, j'ai abandonné ça. J'ai abandonné la salle de sport. Afwan, pardon. Même dans la dounia, même dans la vie mondaine, ça sera quand même assez nuisible si tu abandonnes le travail, tu abandonnes tout ce qu'on vient de citer. Mais dites-vous que dans la religion, dans le dîn, c'est plus grave. C'est plus grave. Si tu abandonnes la prière, ça peut aller jusqu'à la mécréance. Si tu abandonnes la zakat, l'aumône, ça peut aller jusqu'à la mécréance. Si tu abandonnes le rappel d'Allah, tu peux t'égarer, tu peux aller en enfer. Si tu abandonnes l'enseignement, l'apprentissage de la religion, les cours de religion, c'est pareil. Ça peut te mener à différentes portes. Ça peut te mener à l'égarement, ça peut te mener à l'ignorance, c'est sûr. L'ignorance, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, qui est une maladie mortelle pour le cœur. Ça peut te mener également à l'apostasie, la mécréance, etc. Parce que si tu n'as pas ton arme, ton médicament journalier, qui est la science, le rappel d'Allah, forcément, tu vas tomber dans l'ignorance. Et qui dit ignorance, qui dit ambiguïté. Et les ambiguïtés, c'est les flèches du shaitan. Les flèches du shaitan. Et combien de flèches du shaitan tu vas te manger? Jusqu'au jour où ça y est, tu vas partir dans une secte, on ne le souhaite pas, hein. Tu vas finir dans une secte ou tu vas finir dans la dunya, toute la journée en train de parler de dunya au lieu de parler de ton Seigneur. Et on sait comment ça finit, ça peut finir très 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 mal. Donc attention, attention. Tout ça pour vous dire une règle, l'abandon dans la religion, c'est pas un bon signe. Si tu es quelqu'un qui abandonne les choses dans la religion, faut rectifier ça. Rectifie ça. Moi, depuis que je suis tout petit, mon père, Laihmo, Rahimahullah, notre père nous a toujours enseigné, quand tu commences quelque chose, finis-le. Alors moi, je vous transmets ça. Quand tu commences quelque chose, finis-le. Finis-le. Toujours. Ne sois pas quelqu'un qui commence un livre qu'il finit pas, qui commence quelque chose qui ne le finit pas. C'est pas bon. Surtout dans la religion, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tu commences une adoration et puis t'abandonnes. T'abandonnes comme ça. Il y a un blâme sur ça dans la religion. Non. Alors, une question mérite d'être posée en l'occurrence. Doit-on comprendre de ces textes que le fait de pardonner aux coupables est un acte qui est toujours louable et qui est ordonné par la religion. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit ici qu'il y a une question qui se pose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pardonner à tout le monde et tout le temps? Cheikh Al-Uthaymeen va nous expliquer que non, c'est pas dans l'absolu. Il y a des cas où on ne doit pas pardonner parce qu'il y a un intérêt à pas pardonner. Vous allez voir, il va donner un exemple. C'est pas dans l'absolu qu'on dit oui, je te pardonne. Par exemple, un sorcier qui n'est pas mentionné ici, hein, c'est un exemple que moi je vous donne. Le sorcier dans l'islam, pourquoi on l'exécute? Pourquoi on l'exécute? Inch'Allah, on lui dit si tu as fait taouba, Inch'Allah, Allah il te pardonnera. Mais nous, dans la vie d'ici-bas, la sentence qui a été fixée, c'est qu'on doit t'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il se peut, ton mal il est trop grand pour la communauté. Il se peut que tu vas recommencer, tu vas contaminer des gens, tu vas faire du mal à des gens. Donc, Inch'Allah, Allah il te pardonnera, mais nous, on doit t'exécuter. Bon, il y a des divergences sur ça, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas dans l'absolu qu'on pardonne. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, À première vue, on pense que cet acte est toujours louable et recommandable, c'est-à-dire le fait de pardonner à tout le monde. Mais il faut que vous sachiez que le pardon n'est pas louable, pardon, le pardon n'est nouable que si ses raisons sont louables. Allah le Très-Haut l'a bien précisé dans le verset suivant. Celui qui fait grâce dans un esprit de réforme trouvera sa récompense auprès d'Allah dans un esprit de réforme. Il a lié le pardon à la réforme. Le pardon, il est lié à la réforme. Sinon, peut-il y avoir de pardon sans réforme? Il se peut qu'on soit agressé par un malfaiteur connu pour sa perversité. Donc là, Cheikh, il va nous donner un exemple. Où là, c'est un cas où on ne doit pas pardonner. Quand on dit pardonner, c'est-à-dire on ne doit pas laisser passer. On ne laisse pas passer. C'est pas grave, je te pardonne, continue. C'est comme si on disait dans ce cas-là, l'exemple que va nous citer Cheikh Al-Uthaymeen, c'est-à-dire « je te pardonne, c'est bon, tu peux continuer ». Non. Là, il n'y a pas de réforme. C'est une personne qui va continuer à nuire. Exemple. Il a lié Allah Ta'ala le pardon à la réforme. Sinon, peut-il y avoir de pardon sans réforme? Il se peut qu'on soit agressé par un malfaiteur connu pour sa perversité et ses dégâts. En lui pardonnant, on ne fera que l'aider à s'invétérer dans le mal et récidiver, s'enfoncer et continuer. Quelle est la meilleure mesure qu'il faut prendre à ce moment-là? Est-ce le pardon ou la poursuite judiciaire? Réponse. La réponse est qu'il faut le poursuivre en justice, car c'est cela qui pourrait le réformer. Alors je vais vous donner une faïda ici. C'est juste une faïda qui me vient à l'esprit. Hein. Dans ce contexte, il y a une faïda qui me vient à l'esprit parce que quand on ne connaît pas encore, on est débutant, on ne connaît pas bien le tawhid, on ne connaît pas la croyance des gens de la sunna et on ne connaît pas les fatawa, les avis religieux des savants. Les savants disent, même pour un musulman, la question a été posée, hein, même pour un musulman qui fait de l'injustice à un autre musulman, il est permis de porter plainte chez les mécréants. Pourquoi? Les savants, ils se basent sur une règle qui dit que si la seule instance qui peut te donner ton droit, c'est les kofars, mais par contre, tu fais attention, tu gères, tu fais attention à ce qu'on appelle le tarot, les lois des kofars, les tribunaux, les machins, t'essayes d'éviter. Nous-mêmes, on a eu un problème comme ça avec une société qui faisait on a travaillé pour une société il y a quelques années qui s'appelle AVS et qui fait beaucoup d'injustice à certains de ses salariés quand ils ne veulent pas se plier à leurs innovations et leur injustice. On pouvait avoir gain de cause en partant au tribunal, tout ça et tout, mais on avait réfléchi à l'époque à un intérêt. Cet intérêt, c'était quoi? C'est que moi, je ne pouvais pas m'imaginer que des musulmans se retrouvent dans un tribunal et les koufars, ils allaient les juger comme ça. Wallah al-musta'an. C'est un peu la honte. Donc juste pour ça, on avait fait un petit peu marche arrière. Mais sinon, les savants disent que c'est permis. C'est permis. Si tu as subi une grosse injustice, tu peux aller te plaindre. Après, pour l'image, c'est un peu... voilà. Pour l'image, c'est un peu... c'est un peu triste. Taïb. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « La réforme est obligatoire alors que le pardon est recommandé. Si le pardon fait perdre l'occasion de se réformer, c'est-à-dire si on va pardonner à quelqu'un, mais ça ne va servir à rien en réalité. Il n'y a pas d'intérêt. Il ne va pas se réformer, il n'y a pas de réforme. Cela signifie qu'on a mis ce qui est recommandé en avant par rapport à ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est la réforme. Et ce qui est recommandé, c'est le pardon. Le pardon, il n'est pas obligatoire. Mais la réforme, elle est obligatoire. Donc, on ne peut pas faire passer l'obligatoire sur le recommandé. J'espère pour vous, Inch'Allah ta'ala, dans le futur, vous étudierez le usul al-fiqh. Et là, vous comprendrez mieux la différence entre l'obligatoire et le recommandé. L'obligatoire, si tu ne le fais pas, il y a un péché derrière. Le recommandé, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de péché derrière. Donc on va faire passer avant ce qui induit un péché à la suite. En priorité, on va faire passer la chose que si on ne la fait pas, on va être châtié, il y aura un péché. Ça s'appelle l'obligatoire. Dans la religion, quand on vous dit quelque chose est obligatoire, vous devez faire attention, ne pas faire comme énormément de gens, prendre ça à la légère. Ah, c'est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu as un châtiment. Il y a un péché derrière. C'est ça l'obligatoire. Taïb. Or, cela est incompatible avec les règles de la charia. Ibn Taymiyyah a tout à fait raison de dire que cela, de dire cela, qu'Allah lui fasse miséricorde. Si vous préférez, quand on dit on fait passer le recommandé avant l'obligatoire, c'est comme si on fait passer la charrue avant les bœufs. Hein. Je veux à cette occasion avertir d'une erreur que les gens commettent dans l'intention de faire le bien. Cheikh Al-Uthaymeen, maintenant, il va nous donner un conseil. Il va nous donner un conseil. Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit, je veux à cette occasion avertir d'une erreur que les gens commettent dans l'intention de faire le bien. C'est que lorsqu'un individu commet un accident qui a causé la mort d'un autre individu, les ayants cause de la victime interviennent pour exempter l'auteur de l'accident du prix du sang. Alors vous savez que dans la législation islamique, charia, islamia, dans un État islamique, vous savez que quand il y a un meurtre, par exemple, ou un accident qui cause la mort, la famille du défunt, dans les lois islamiques, la famille du défunt, elle a deux possibilités. Elle a la possibilité de pardonner, mais sous compensation financière, ou alors elle a le choix de dire je veux le prix du sang, ça veut dire que la personne, elle sera exécutée. Là, c'est de ça que nous parle Cheikh Al-Uthaymeen. Écoutez bien, il nous dit, je veux à cette occasion avertir d'une erreur que les gens commettent dans l'intention de faire du bien. C'est lorsqu'un individu commet un accident qui a causé la mort d'un individu. Les ayants cause, ça veut dire la famille de celui qui est mort, de la victime, interviennent pour exempter l'auteur de l'accident du prix du sang. Ça veut dire que dans ce cas-là, ils ont choisi de ne pas le faire exécuter. Celui qui a tué un membre de leur famille, ils ont choisi de ne pas le faire exécuter. Est-ce qu'on peut dire que cette exemption est un bon geste qui exprime une noblesse de caractère, ou faut-il détailler cette question? Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, il faut un détail. Cheikh Al-Uthaymeen, il va nous expliquer que dans ce cas-là, vous êtes en train de blanchir une personne qui normalement on ne doit pas la blanchir. Parce qu'il est connu, c'est quelqu'un qui, comme s'il faisait exprès, il est connu pour ça, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Donc lui, non. Il y a un grand méfait de lui pardonner à lui. Il y a un grand méfait. Donc pourquoi Cheikh Al-Uthaymeen nous raconte ça? On est dans un contexte là où Cheikh Al-Uthaymeen nous explique que c'est pas dans l'absolu qu'on doit pardonner à tout le monde. Il y a des cas où on pardonne pas dans l'islam. Mais c'est pas par on pardonne pas, c'est pas par passion ou parce qu'on n'arrive pas ou parce que bon, l'option de j'arrive pas, elle peut exister, hein. Mais c'est plutôt là, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit pour un intérêt communautaire, un intérêt. On va pas laisser dans la nature quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui s'en moque à tout va, qui s'en moque à tout va et qui peut récidiver. Lui, on lui pardonne pas. C'est pour l'intérêt communautaire. On va pas dire par exemple dans l'islam, nous on n'est pas comme les kofars. Allez, tu fais tes 10 ans de prison et tu peux sortir. Un pédophile, un violeur, un tueur en série. Subhanallah. Tueur en série, on sait que c'est une maladie. C'est une pathologie. Wallahu a'lam, En tout cas, moi, si ça aurait été mon cas, si je sais que c'est une pathologie, il va récidiver, je ne demande pas de l'argent. Pour le bien des gens, je demande qu'ils soient exécutés. Wallahu a'lam. Parce que, on sera mal si jamais on lui a pardonné et le lendemain, il a tué toute une famille. Là, on sera mal. On sera mal. Donc, Cheikh Al-Othaymine nous dit la réponse est qu'il faut entrer dans les détails. Il faut que nous examinions l'état du coupable. Vous voyez, pour pardonner à une personne et dire c'est bon, on ne demande pas ton exécution, on te pardonne, il faut vérifier, examiner l'état du coupable. Vous voyez que l'islam, ce n'est pas comme ça. Hein. Est-il connu pour ses étourderies et ses imprudences? Fait-il partie de ces chauffards qui disent je ne me soucie pas de heurter quelqu'un qui se trouve sur mon chemin. Son prix du sang se trouve dans mon tiroir. Ça veut dire qu'il s'en moque complètement de tuer ou de ne pas tuer. Qu'Allah nous préserve d'une telle mentalité, ou bien est-il un homme pondéré qui fait très attention quand il conduit et par un destin d'Allah, il a commis cet accident. Deuxième cas de la personne, c'est une personne vraiment, il fait très attention, mais il n'a pas fait exprès, il a fait un accident. La réponse est que s'il fait partie de la deuxième catégorie des gens, il mérite d'être pardonné. La deuxième catégorie, c'est que si c'est une personne qui fait très attention, mais qadar Allah ma sha'a fa'al, il a fait un accident, lui, il mérite d'être pardonné. À souligner toutefois que même dans ce deuxième cas, il faut voir si la victime a laissé des dettes ou non. Cela doit être vérifié avant de procéder à une quelconque exemption. Ça veut dire, avant de lui pardonner, on doit voir s'il a des dettes pour régler ses dettes. Pourquoi émettons-nous cette condition? C'est que les héritiers reçoivent leur part du prix du sang de la victime de l'accident. C'est-à-dire que si les héritiers décident de pardonner à celui qui a tué un membre de leur famille, ils vont recevoir ce qu'on appelle le prix du sang, une somme d'argent. Mais avant de recevoir cette somme d'argent, il faut regarder si le mort Il n'avait pas, plutôt si celui qui va être exécuté, il n'avait pas des dettes pour les rembourser. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et ce, après qu'aura été exécuté le testament qu'il a établi et qu'auront été réglées les dettes. Donc ce sont, Allahu A'lam, les dettes du défunt. Cette question échappe à beaucoup de gens. Nous disons alors que si quelqu'un a été heurté par une voiture et est mort, suite à cet accident, avant que ses héritiers n'entreprennent la procédure de l'exemption du coupable, il faut qu'on voie la situation de la victime si elle a laissé des dettes. Exactement. C'est la victime, hein, celui qui a été tué dans l'accident. Il faut voir s'il avait des dettes. Des dettes, c'est le prix du sang qui les couvrira et donc il n'y a pas de pardon. Car la dette passe avant le partage de la succession. S'il n'y a pas laissé de dettes, il faut examiner le cas du coupable. S'il est quelqu'un d'imprudent, alors il vaut mieux ne pas le dispenser du prix du sang. S'il n'est pas quelqu'un d'imprudent, il faut voir la situation des héritiers. Et il y a encore un autre paramètre. Si ces héritiers sont dans le besoin, ils ont besoin d'argent ou pas. Si ceux-ci sont incapables de gérer convenablement leurs biens, alors personne n'a le droit de les priver de leur part des biens de la victime. S'ils sont des gens raisonnables, capables de gérer convenablement les biens, alors il vaut mieux qu'il lui pardonne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une expression de la noblesse du caractère, le bon comportement, que de faire grâce aux gens, et c'est une forme de générosité, de pardonner. En effet, la générosité consiste soit en un don, soit en une exemption, ou en faisant grâce au coupable, on le décharge de toute poursuite. Ça aussi, ça fait partie du bon comportement. Subhanallah. Ensuite, on nous dit la troisième vertu. Ça, on le fera dans le cours prochain. La troisième vertu du bon comportement consiste à avoir un visage souriant. Le contraire du visage souriant est le visage renfrogné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: En effet, ne sous-estime pas la moindre bonne action, pas même de recevoir ton frère dans la foi avec un visage souriant. Wallahu al-musta'an. Donc, Inch'Allah ta'ala, On abordera ce sujet très 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 important et on essaiera de bien vous détailler ce sujet dans le cours prochain parce que c'est très 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 important et malheureusement c'est très 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 délaissé à notre époque. Une chose où le prophète Aïssatoussalem nous a demandé attention, ne délaisse pas cette chose-là, ne sois pas insouciant, laxiste. Quand tu rencontres ton frère, aie un bon comportement avec lui, ton frère ou ta sœur, hein, et souris-lui, visage épanoui, resplendissant. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, notre cours, le cours de ce matin touche à sa fin. On se donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour demain. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.